Radio Scénique, Éric Dauterre, bonjour. Qu'y a-t-il de commun entre un conte et un spectacle de chansons censurées ? A priori, pas grand-chose, si ce n'est le lieu où on a eu le plaisir de voir ces deux spectacles. Et ce lieu, c'est le Théâtre Essaillon, petit théâtre aux deux salles voûtées du centre de Paris. La censure s'est exprimée, elle s'exprime et s'exprimera toujours, politique, religieuse ou morale, elle gomme et fait disparaître des œuvres du paysage culturel, pictural, littéraire et musical. Dans une censure sachant chanter, c'est aux chansons censurées que Raphaël Calandreau et Julie Autissier s'intéressent. Dans leur spectacle musical tout autant que théâtral, les deux comédiens chanteurs proposent un show entre cabaret et tour de chant. Tous deux nous offrent un panorama des chansons interdites de radio ou de télé, depuis la Première Guerre mondiale, quasiment jusqu'à nos jours. Raphaël Calandreau est avec nous aujourd'hui dans Radio Scénique. L'ogrelet, c'est le fils de l'ogre, un ogre qui, comme on le sait, est une créature effrayante, affamée, et qui se nourrit de la chair des jeunes enfants. Alors, comment faire avec de pareils antécédents quand on a 6 ans, qu'on fait la taille d'un homme et qu'on habite avec sa mère dans une cabane au milieu des bois? C'est ce que nous diront Christophe Lapara et Patricia Varnet. Ils sont metteurs en scène, co-interprètes et comédiennes du conte L'Ogrelet. Un joli spectacle un peu effrayant, également présenté donc à l'Essaillon. Vous avez le programme de cette 29e édition de votre magazine du théâtre sur Allegre FM. Alors, éteignez vos portables, baissez les lumières, Radio Scénique, c'est parti.
Radio Scénique par Éric Dauterre. Le théâtre sur Allegre FM.
Elle, c'est Zoé Dutilleul. Elle a la charge de la programmation d'un lieu culturel. Et pour ne pas déplaire, il lui arrive de ne pas programmer ou de déprogrammer des spectacles. Mais ne lui parlez pas de censure, elle a horreur de ce mot. Lui, c'est Armand. Et lui, il a une conception plus extensive de la liberté d'expression. Ils sont réunis au chant et au piano, ils nous offrent une très bonne introduction à une censure sachant chanter, présentée à l'Essaillon. Extrait.
Il y a la censure des dictateurs, celle des rois, celle des papes, des présidents, des gouverneurs, des technocrates et oligarques, celle qui vous fait grincer des dents, celle qui vous jette aux oubliettes, celle qui vous pince la pomme d'Adam, celle qui vous fait couper la tête. Il y a la censure en amont, il y a la censure en aval, la censure de Napoléon et la censure du maréchal. Et puis il y a les coups de pression, les privations de subventions, dénonciations, diffamations, ainsi que les procédures bâillons. Oppressante censure, tu te sens bien dans tes chaussures, tu mets du sang sur les murs de nos murmures. Implacable censure, censure, tu n'es que morsure. Tu mets du sang sur nos libertés que tu fissures. On l'a appelé pensée unique, on l'a appelé Anastasie. À l'ouest c'était macartisme, à l'est c'était la Stasi. Celle des lobbies qui veulent faire taire toute nuisance économique, et celle des grands propriétaires des organes médiatiques. Celle qui aplatit Galilée, celle qui musait le beau marché, l'origine du monde de Courbet, ainsi que la Bible en français. Il y a la technique de l'homme de paille, qui rend le penseur infréquentable, change un humoriste en canaille et fait d'une philosophe le diable. Oppressante censure, tu te sens bien dans tes chaussures, tu mets du sang sur les murs de nos murmures. Implacable censure, censure, tu n'es que morsure.
Raphaël Calandreau, bonjour.
Bonjour.
Avec Julie Autissier, qui est coécrit et interprète avec vous le spectacle, vous êtes allé puiser dans le répertoire des chansons françaises censurées. Il y en a tant que ça ?
Il y en a pas mal. Après, ça dépend ce qu'on appelle censuré, évidemment. C'est-à-dire qu'il y a, toutes les chansons, c'est ce qui est dit dans la chanson qu'on vient d'entendre, il y a toutes les chansons qui ont été victimes de pression. Pas forcément une censure telle que les chansons de guerre, qui, elle, était victime de censure, ce qui se comprend très bien, ce qui se conçoit très bien, parce que bah voilà, c'est la guerre, il y a l'état-major, tout ça. Mais sinon, beaucoup de pression sur l'ORTF, notamment à l'époque de l'ORTF.
Oui, on aura l'occasion d'en reparler. Vous avez mis en valeur une trentaine de chansons. J'ai la liste là, ça va de de Craon jusqu'à une chanson qu'on écoutera tout à l'heure, jusqu'au Déserteur, ce qui peut se comprendre. Je voudrais faire l'amour avec toi de Michel Polnareff, jusqu'à I Want Your Sex de George Michael. Ces chansons, elles ont été censurées pour différents motifs et de différentes manières. Parfois c'est la radio, oui. Parfois c'est le clip qui est interdit à la télé.
Oui, c'est ça. Effectivement, tout est dit. Parfois c'est le clip. Et au niveau de la radio, alors on a mis les chansons qui étaient interdites avant minuit. Parce qu'à une certaine époque, il y avait cette interdiction.
Comme le carré blanc, à l'époque, il y avait un carré
blanc.
Exactement.
Et puis, de toute façon, à la télé, là, les films érotiques ou pornographiques, c'est interdit. Enfin, pornographique, il n'y en a pas, mais érotique, c'est interdit avant une certaine heure. Et puis effectivement, les chansons aussi, on a mis les chansons qui ont été attaquées en justice. Notamment, il y a des raps, il y a pas mal de morceaux de rap. On en fait quelques-uns, pas beaucoup, des extraits plutôt, qui ont été attaqués en justice et certains qui ont dû payer l'amende ou qui ont fait l'objet ensuite d'interdiction de représentation en public. D'autres, non, qui ont juste eu la pression, mais on les fait quand même. C'est-à-dire on met toutes sortes de censures.
Alors comment vous avez opéré votre choix? Parce que si on en croit l'ouvrage d'Emmanuel Pierrat et Aurélie Svez qui était paru en 2014, il y aurait une bonne centaine de chansons qui auraient été interdites, depuis Yvette Guilbert jusqu'au Frère Jacques, de Niagara au Vent Passe. Comment vous avez fait ce choix?
On a écouté beaucoup de chansons avec Julie. On a écouté beaucoup de chansons et puis on a listé un peu celles qui nous motivaient. Parce qu'après, il faut que ça passe par le corps, il faut que ça passe par nous. Donc, on a listé tout ça. Et puis ensuite, moi, j'ai fait ma tambouille à moi, qui était d'en faire une dramaturgie. Donc voilà, la dramaturgie, je ne vais pas dévoiler trop du spectacle, mais c'est l'idée du spectacle, c'est se libérer de l'autocensure. Donc, en créant un personnage de programmatrice qui s'autocensure. Et comment se libérer de l'autocensure? Il y a une progressivité. Donc, les chansons sont agencées selon un ordre progressif qui va permettre la libération de la personne.
Alors, en dehors de ces chansons décensurées, pour lesquelles vous avez fait un énorme travail d'arrangement, hein, vous les faites souvent à deux voix. Il y a les vôtres, Raphaël Calandro, comme celle qu'on a entendue tout à l'heure, qui est une très bonne introduction au spectacle. Elles servent d'articulation quand on passe d'un thème à l'autre, c'est ça?
Tout à fait. En fait, il n'y en a que trois, des chansons qui sont purement originales, qui servent... celle-là qui est la chanson qui introduit le sujet. Il y en a une au milieu, peut-être qu'on entendra, je pense, sur l'interdiction avant minuit, justement.
Absolument.
On entendra un bout.
Vous savez tout.
Et puis aussi, sans devoir aller trop vers la fin du spectacle, il y en a une aussi qui répond à la chanson d'introduction. Mais c'était pour articuler plus et qui viennent un peu comme des dialogues, des chansons dialogues plus que des chansons sur des sujets... qui sont celles qui ont existé.
Alors, au-delà d'une simple succession de chansons, Julie Autissier, votre complice, et vous-même, vous avez voulu mettre du théâtre. Enfin, si j'ai bien compris, c'est vous qui avez mis la patte théâtrale. Ouais. Vous êtes au piano et votre comparse, elle est au chant, parfois aux instruments. Et vous êtes donc Zoé et Armand, que tout ou presque semble opposé, du moins au début. On va pas tout révéler.
C'est ça, mais... évidemment, oui, parce qu'il y a quand même des choses très mystérieuses dans ce spectacle. Donc, on va pas tout dire. Mais effectivement, au tout départ, on a une programmatrice qui, comme vous l'avez très bien introduit au début de l'émission, ne censure pas, mais choisit de ne pas tout programmer.
Elle est de gauche, hein, et le mot de censure,
elle
lui frotte les oreilles. Je dirais même, elle travaille à la mairie de Paris.
Ça dépend où on va jouer. En tout cas, elle travaille là où le spectacle joue.
Quand vous jouez à Les Saillons, elle travaille à la mairie de Paris. Donc.
Bah, Avignon, elle travaillera à Avignon. Donc voilà, elle travaille pour. Alors c'est assez vague. Hein, on précise pas trop parce qu'elle travaille pour. Elle est en charge de la culture dans le 4e arrondissement. Alors on dit pas si c'est pour la mairie de Paris ou du 4e arrondissement ou pour la région, n'importe quoi. Mais on se dit il y a tous les gens autour d'elle qui peuvent être mécontents, elle ne veut pas les mécontenter.
Elle est prise entre le marteau et l'enclume.
Exactement, ce que j'allais dire. Elle est en étau.
Entre ses élus, le public et les artistes. Qu'est-ce qu'ils sont emmerdants, les artistes?
Vous avez noté, les artistes, ils ne veulent pas être censurés. Donc, et ils veulent que ce soit eux qu'on programme parce que les artistes, on considère que c'est notre spectacle meilleur et notre chanson la meilleure, forcément.
Qu'est-ce qui fait que vous avez eu envie de faire un spectacle allant au-delà du tour de chant? Parce que ça aurait pu être sympa, un petit tour de chant comme ça, juste en enchaînant des chansons pour la plupart, donc, on redécouvre. Parce que vous avez une interprétation tout à fait particulière qui met en valeur le caractère subversif des chansons.
Oui, alors pour notre histoire personnelle, à notre duo, à Julie et à moi, on a fait beaucoup de spectacles ensemble. Alors parfois, dans d'autres contextes, même on a bossé tous les deux pour d'autres compagnies. Mais vraiment ensemble, c'est notre troisième spectacle. Le premier était il y a de nombreuses années. C'était notre premier spectacle professionnel sur des chansons de Gainsbourg. Et le deuxième sur des chansons de tous les mecs qui se prénomment Jacques. Donc on avait Jacques Brel, Jacques Higelin, tout ça. Et à chaque fois, c'était un tour de chant théâtralisé. Donc on faisait un tour de chant et on jouait des personnages. Et c'est vrai qu'on a tous les deux vraiment une formation de comédiens. Et donc c'était vraiment pour des raisons personnelles qu'on voulait que ce soit dramaturgique, qu'il y ait des dialogues entre les chansons, qu'on soit des personnages, qu'il y ait une évolution, qu'il y ait un des personnages qui soit le personnage principal qui se libère de quelque chose. Donc c'était l'envie là pour ce troisième spectacle commun d'avoir quelque chose qui change. Et puis en fait ça, on a bien fait parce que le public est très très sensible.
Ça réagit beaucoup, j'étais dans une salle quasi pleine et on peut dire qu'il y a une réaction. Alors ça dépend des générations hein, parce que il y a des chansons qui sonnent aux oreilles de certains et pas du tout aux oreilles d'autres.
Oui, sur les références on sent que c'est quand on passe la barre des 75 ans, il y a des réactions particulières sur certaines chansons en particulier. Ouais.
Vous avez fait attention aussi à aller dans des chansons du patrimoine pour ne pas perdre le spectateur, ou du moins pour avoir une certaine complicité avec lui.
Oui, en même temps, là, on était obligé d'être dans le patrimoine, mais surtout, on voulait être vraiment exhaustif. Hein. On ne s'est pas dit que les années 60, on ne s'est pas dit, ah non, on ne va pas faire le rap, on ne s'est pas dit, on ne va pas faire les trop vieilles chansons. Non, on est vraiment allé les premiers enregistrements, hein, parce qu'à un moment, il y a la grève des mères de Montéus.
Elle date de quand, cette chanson?
C'est 1901, avant 14, donc 1900. Et Montéus, l'auteur, il l'a chanté même jusqu'à ce que les disques existent, qui sont existés plutôt dans les années 20 ou fin des années 10. Mais en tout cas, ça fait partie des premiers enregistrements qui existent. Et on est allé jusqu'à le plus récent, c'est Medine, le rappeur Medine, qui, il y a quelques années, s'est vu déprogrammer un concert, même pas il y a quelques années, je crois que c'est l'année dernière, qui s'est vu déprogrammer un concert... parce que ce qu'il disait ne plaisait pas.
Il y a des chansons qui ne sont pas dans votre répertoire, ce sont les chansons directement politiques. C'était trop facile
Directement politique mais est-ce qu'il y a eu... Vous pensez à une chanson en particulier qui a été censurée? Parce qu'on n'a pas... On a posé un peu la question de Jean Ferrat, parce qu'on a un tout petit extrait de Jean Ferrat seulement, alors que Jean Ferrat, lui, était plutôt du genre à être censuré pour des raisons politiques, en tout cas pas programmé dans des émissions, etc. En fait, on aime beaucoup Jean Ferrat, le truc, c'est que vraiment, on a choisi les chansons selon ce qu'on sentait pour la dramaturgie, pour nous, et on a essayé de pas faire l'impasse en mettant un petit peu des choses, justement comme Jean Ferrat, comme Brassens, en mettant un peu de tout. On était obligé de choisir selon ce que la chanson apportait à la dramaturgie.
Avec Raphaël Calandreau, nous parlons aujourd'hui de une censure, Sache Enchanter, un spectacle évoquant des chansons censurées, dont celle d'un certain Johnny Hallyday.
S'il existe encore aujourd'hui, il doit vivre aux États-Unis. Il doit jouer de la guitare et coucher sur les bancs des gares. Il doit fumer de la marijuana avec un regard bleu qui plane. Jésus, Jésus-Christ, Jésus-Christ est un hippie. Poncho mexicain sur le dos, autour de son front un bandeau. Il est barbu et chevelu, il s'est battu à Chicago. Il aime les filles au sein nu, il est né à San Francisco. Oui, Jésus, Jésus-Christ, oh Jésus-Christ est un hippie. père s'appelait Joe, je crois. Sa mère s'appelait Mary, je crois. Il a 33 ans, je crois. Le FBI lui court après, je crois. Et s'ils arrivent à le coincer, ils mettront notre ami en croix. Oh Jésus, Jésus-Christ, oh, Jésus-Christ est un hippie. Ouais, Jésus, ouais, Jésus-Christ, oh, Jésus-Christ est un hippie. Ouais.
Radio Scénique par Éric Dauter. Le théâtre sur Aligre FM.
Sur Radio Scénique, nous évoquons donc une censure sachant chanter, un spectacle présenté à l'Essaillant. Raphaël Calandreau, vous nous disiez pendant la diffusion de cette petite perle dont les textes sont signés Philippe Labro, que ça avait valu une excommunication, une menace d'excommunication à Johnny Hallyday.
Ah oui, excommunication. On dit ça, excommunier. Ah oui, oui, parce que c'est vrai que le terme, c'est excommunié, mais...
Excommunication,
ça
oui.
Excommunié. Oui, alors non, il a été menacé. Et après, il est dit que le pape aurait écouté pour donner son avis. Mais je ne sais pas si c'est vrai.
Le pape écoutant Johnny Hallyday.
On imagine le pape, oui, qui écoute.
Et il y a un certain nombre de disquaires qui auraient cédé à la pression, oui. Qui auraient arrêté de commercialiser le disque.
Oui, oui, oui. Alors ça, c'est sourcé dans le livre que vous citiez.
Le livre d'Aurélie Spes et d'Emmanuel Pierrat.
Et c'est très bien relaté. Et donc, je pense que c'est effectivement sourcé qu'il y a des disquaires qui ont cédé à la pression et qui ont dit effectivement je ne mettrai pas dans mes bacs ce disque qui heurte la morale.
Alors on a fait un choix dans Radio Scénique, c'est de pas forcément diffuser les chansons telles que vous les chantez dans le spectacle pour garder la surprise et de faire écouter à nos auditeurs les originaux. Et parmi les chansons censurées, il y en a de bien surprenantes. On va écouter l'un des auteurs victimes du ciseau de la pudibonderie. C'était en 1966 et à la télévision, il racontait ses mésaventures.
Dites-moi, cher ami, quand vous étiez petit garçon, êtes-vous allé en colonie de vacances ?
Oui.
Mais alors, cette chanson n'est pas une vengeance.
Non, pas du tout. Mais non, pas du tout, au contraire. Ça a tellement fait rigoler tout le monde que je commence à croire que c'est du pain béni.
Vous avez reçu beaucoup de lettres de protestation ?
Pas des masses, mais celles qui ont protesté ont été vraiment sanglantes, hein, alors.
Pour ceux qui ne l'ont pas reconnu, c'est Pierre Perret, l'auteur des Jolies Colonies de Vacances. On va prendre cet exemple, Raphaël Calandreau, une anodine chanson censurée parce qu'elle évoque des gamins qui font des bêtises, vraiment ouais.
Effectivement. Alors, je sais pas si elle a beaucoup été finalement non diffusée, mais effectivement, la... Il s'avère que la femme du général de Gaulle, Yvonne de Gaulle...
Très très prude femme.
Bah oui, c'est ça. Elle a apparemment écrit au directeur de France Inter pour que la chanson ne soit pas diffusée. Alors vous dites des bêtises, c'est surtout en fait l'image de la France, l'image que représentait...
Citez-nous ces sublimes vers de Pierre Perret.
Hier, j'ai glissé de sur une chaise en faisant pipi dans le lavabo. J'ai le menton en guidon de vélo et trois canines au Père-Lachaise. En fait, c'est que les colonies de vacances étaient la fierté, c'était une fierté nationale parce que vraiment, on avait mis en place les colonies de vacances c'était magnifique. La France, tous les enfants de la France pouvaient partir en vacances comme ça facilement, pour pas cher. Et donc, qu'il y ait cette chanson qui sorte et qui dise qu'en fait, on fait que des conneries, qu'on pisse partout, qu'on a des boutons sur le zizi parce qu'on se baigne dans de l'eau polluée. Enfin, tous ces trucs-là, ça plaisait pas du tout.
C'est-à-dire qu'on prenait de manière frontale ce qui était dit dans des chansons qui sont après tout que des chansons.
Oui, et puis finalement, quand on écoute et qu'on en rigole, on se dit pas « Ah, les colonies de vacances, quelle horreur !» Tout ça, au contraire, en fait, les gens retiennent plus le refrain c'est presque une pub pour les colonies de vacances, en vrai.
Quels sont les principaux thèmes autour desquels on censure, on a censuré, on censure et on censurera des chansons?
De toute façon, c'est très simple. Il y a 4-5 grands thèmes qui sont évidemment la guerre, le sexe, et puis après, il y a la drogue. ça a fait l'objet de censures, surtout judiciaires, quoi. Surtout de tentatives d'interdiction pour apologie de la consommation de drogue.
Vous chantez Mangez-moi, ouais. Qui évoque les champignons hallucinogènes.
Tout hein. À fait, ouais. Mangez-moi, Mangez-moi de Billy the Kick. Et puis Matmata, le groupe Matmata, qui a eu des amendes pour avoir chanté Je suis pour la légalisation, quoi. Il y en a beaucoup des chanteurs qui ont chanté Je suis pour la légalisation, mais bizarrement il y en a certains qui ont été en justice, pas d'autres.
Finalement, ça amène à se poser la question sur ce que c'est qu'une chanson.
Oui, c'est vrai. Alors, et puis quel est le rôle d'une chanson aussi, ouais. Oui, parce que finalement, je pense que j'ose espérer qu'à la fin du spectacle, on a un vrai sentiment intérieur de libération. Enfin, en fait, c'est-à-dire que Julie et moi, en ayant monté et travaillé le spectacle, on ressent ça en fin de spectacle et on a l'impression que les retours, c'est ce qui nous est dit. C'est que le public ressort avec...
Une jubilation, de toute façon.
Une jubilation, ouais. Et puis aussi, on parle de sexe, on parle d'antimilitarisme. Il y a la religion aussi, on n'a pas parlé de religion. Mais de se dire, on peut être libre. Et puis aussi, on a pris un biais alors qui peut être... que des gens peuvent critiquer, ça se critique pas trop jusqu'ici, mais ça pourra peut-être arriver, qui est de pas être nous-mêmes très frontaux. Nous, on est dans l'amusement. Et en fait, c'est un parti pris pour exprimer qu'il y a quelque chose en soi, en chacun de nous, qui est à libérer, c'est-à-dire à se dire « Hey, on peut rigoler un coup, on peut caricaturer, on peut chanter, on peut s'amuser, on peut rire de tout, ça va, il n'y a pas de problème. » Et on espère que ça fonctionne, quoi.
Alors, parmi les thèmes qui se taillent la part belle dans cette censure, on a le sexe, hein, et on va réécouter une autre de vos chansons à vous, Raphaël Calandro. Ouais. Un autre extrait de votre spectacle, La censure, sachant chanter. On en passe juste un tout petit bout parce qu'on voudrait garder le suspense entier pour nos auditeurs. Et on y parle de cet interdit majeur qu'est le sexe.
Interdit avant minuit, interdit avant minuit, ces chansons bannies des eaux, autorisées seulement la nuit, quand les oreilles pudibondes sont endormies.
Oui, ça amène à sourire. Que les auditeurs nous pardonnent, mais on va leur laisser un peu de suspense pour aller voir la censure, sachant chanter, mais c'est un des morceaux croustillants. Et c'est une œuvre qui est signée Raphaël Calandro. On l'entend dans ce court extrait, vous apportez un soin particulier aux arrangements et vous flirtez parfois avec la musique française du début du 20e. Enfin, c'est cette impression que j'ai eue dans vos accords de piano, un vrai piano sur scène. C'était quoi votre idée quand vous avez attaqué cet ensemble de 29 chansons qui couvrent tant de styles différents? Comment vous vouliez faire une ligne mélodique avec autant de styles différents et avec un piano, parfois des instruments à bouche. Hein,
Ouais, un mélodica. On va pas tout dévoiler, mais voilà, il y a d'autres petits instruments qui interviennent. C'est-à-dire que ce que j'aime bien, moi, c'est le concept, et Julie aussi, on aime beaucoup le principe du mot variété dans son sens noble, c'est-à-dire en fait la chanson pioche partout. Et c'est vraiment l'idée, c'était d'exprimer ça dans ce spectacle. Donc effectivement, une chanson là, Interdit avant minuit, il y avait cette idée de boudoir, un peu de
de sensualité. On prévient les auditeurs, ça va être très chaud.
Ouais, ce passage-là est assez sensuel. On fait un quatre mains.
N'en dites pas plus.
Non, mais voilà, j'en ai dit beaucoup. On peut beaucoup imaginer, mais il faut venir voir, effectivement.
Il y a quelque chose, il y a votre style qui traverse l'intégralité du spectacle, votre style musical. Vous êtes de formation classique.
Ouais, hein. Okay, alors moi, je suis de formation classique et jazz. Et effectivement, je pense que ça... justement, le début de siècle en musique classique, Debussy, Ravel, il y a des influences jazz, et j'aime beaucoup ça, cette période-là, elle m'influence. Et puis après, jazz, swing, et on rejoint la chanson aussi avec le fait que la chanson a pris dans le swing à partir de Charles Trenet, a complètement puisé dans le jazz. Et c'est tout ce mix-là que j'aime beaucoup. J'ai toujours été un peu rétro. Enfin, maintenant, je peux dire, je suis plus un jeune, mais quand j'étais jeune, j'étais un jeune déjà un peu vieux dans mon style parce que j'aimais bien ce qui était rétro.
Et bien, continuez à être vieux comme ça. C'est le moment de parler du soin particulier que vous apportez à la forme de votre spectacle en dehors du style musical. Il y a une forme particulière. Vous avez fait appel à un metteur en scène,
oui,
à un œil extérieur. Et je dirais, à titre de critique, ça se sent. Oui. Vous apportez un soin particulier aussi aux éclairages.
Oui. Et puis aux costumes aussi. En fait, on s'est entouré de trois personnes vraiment pour ça. On n'a pas fait appel à ni chorégraphe ni scénographe. On a vraiment limité à jouer et parler autour du piano. Donc Nicolas Guimino, notre metteur en scène, il nous a fait vraiment travailler toute la direction d'acteur. Il nous a fait travailler ça de manière à ce que vraiment on se parle et qu'on entende tout ce qu'on se dit en dialogue comme en chanson, et qu'il n'y ait pas un moment où ça crée une rupture entre dialogue et chanson.
Mais c'est ce que je m'apprêtais à dire, c'est que les chansons se fondent parfaitement dans le dialogue, et les dialogues interviennent de manière tout à fait naturelle dans les chansons.
Ouais, c'était déjà notre ambition avant de faire appel à Nicolas Guimino. On avait avec Julie déjà cette ambition là puis lui il a poussé encore plus loin, c'est-à-dire que vraiment parfois il nous a dit mais ce couplet là parlez-le. De temps en temps, il peut y avoir du parler-chanter où sur un mot, il y a une syllabe qui est la note d'origine et puis le reste du mot est parlé. Enfin, donc on a vraiment travaillé ça dans le détail, on a passé beaucoup de temps à travailler ça. Et puis Mathilde Monnier aux Lumières, ils ont travaillé ensemble pour créer vraiment des ambiances très spécifiques. Il y a une cinquantaine d'effets dans le spectacle, donc plus d'effets que de chansons, c'est-à-dire que vraiment chaque chanson a au moins un effet dessus et qui évolue.
Oui, et précisons-le, rappelons ce petit lieu formidable qu'est le Théâtre Essaillon. Il a deux salles, il se trouve qu'on a deux spectacles qui sont dans chacune des deux salles.
Ouais.
Et malgré la taille du lieu, c'est une sorte de cave.
Ouais.
On arrive à faire des choses formidables. Il n'y a pas de scène. Il y a un espace scénique qui est à la hauteur du sol avec une trentaine, quarantaine de sièges en gradin.
Ouais. Et la salle cabaret, enfin les deux salles sont différentes.
Alors Christophe Lapara, oui, il y a 64 places. Voilà, merci. Notre deuxième invité me corrige. Merci Christophe Lapara.
Alors pour notre spectacle, il y en a 61 parce que il y a trois places qui pouvaient pas être, qui peuvent pas avoir. Donc pour être très précis, on a supprimé trois. Mais effectivement, la grosse qualité de l'Essaillon, c'est qu'ils équipent bien leur salle. Alors là, on s'amplifie pas, mais il y a un bon système d'amplification. Et puis, pour une salle qui a un plateau si petit, on joue vraiment... Enfin, le plateau, il a 6-7 mètres d'ouverture, mais seulement on joue que sur 3 mètres d'ouverture. Et il y a quand même un nombre de projecteurs assez conséquent qui fait qu'on peut faire des très belles choses.
Les plateaux, ils ont la taille de votre imagination. Aujourd'hui, la censure, elle est partout. Elle se veut protectrice et elle est exercée de manière industrielle et insidieuse par les réseaux sociaux et les algorithmes. Votre propos artisanal, il n'est pas un peu dépassé ?
Si, complètement, ne venez pas. Non, au contraire, évidemment, au contraire, c'est plus que jamais intéressant parce que, comme je disais, le spectacle, il touche au fond des choses, à la sensation qu'on a en nous. Après, je pense que le message, c'est ensuite que le spectateur se dise, tiens, je vais m'interroger sur la censure politique, pas que la chanson, la censure Internet, voilà, donc. tout ce qui est... Les interdits, quoi.
Raphaël Calandreau, merci. Rappelons qu'avec Julie Autissier, vous jouez une censure, sachant chanter, un sacré titre à prononcer. C'est au théâtre Essaillon. Raphaël Calandreau, merci.
FM 93.1.
Radio Scénic réunit aujourd'hui deux spectacles évoquant censure et ogrelet, un drôle de duo hein, dans un même théâtre, Les Saillons. Alors justement, cet ogrelet, titre et objet du spectacle mis en scène et interprété par Christophe Lapara et Patricia Varnet, qui est-il ? Eh bien, l'ogrelet, tel que nous le décrit le comte de Suzanne Le Beau, c'est le fils d'un ogre mangeur de chair d'enfant. Il est grand, ses jambes sont celles d'un homme et ses cheveux blonds comme les blés. Il habite seul avec sa mère dans une cabane au milieu de la forêt. Retrouvons-les tous les deux alors qu'ogrelet va pour la première fois à l'école. Patricia Varnet et Christophe Laparent ont déménagé leur cabane le temps d'une émission. On les écoute en direct depuis le studio d'Aligre FM.
Redis-moi la date de ton anniversaire, mon petit.
Le 3 décembre, maman.
Dis-moi maintenant quel âge tu as eu le 3 décembre dernier.
6 ans, maman.
Que fais-tu si la maîtresse te dit tu es trop grand pour venir à l'école?
Je lui réponds, tous les enfants de 6 ans ont droit à l'école libre et gratuite. Qu'est-ce que ça veut dire, maman, libre et gratuite?
Que tous les enfants de 6 ans, sans exception, doivent aller à l'école et que l'école doit les accepter. Que dis-tu après libre et gratuite?
Si vous ne me croyez pas, écrivez à maman. Elle est à la maison. Nous n'avons pas le téléphone, mais...
Elle vous expliquera notre situation. Tu sauras le dire?
Oui, maman.
Tu ne mets pas les doigts dans ton nez. Tu écoutes la maîtresse. Tu réponds oui, madame, non, madame, et tu regardes le tableau.
C'est quoi un tableau?
Tu le reconnaîtras en le voyant. Voilà ton goûter et ton déjeuner, mon ogrelet. Demande à la maîtresse de manger seule dans la classe, les premiers jours. Dis-lui que ce serait mieux pour toi.
Tu me l'as déjà dit, maman. Je ne pourrais pas jouer au ballon comme les enfants du livre que tu me lis le soir pour m'endormir.
Attends de connaître les jeux et la fragilité des enfants pour jouer avec eux. Tu es tellement fort et tellement grand. Tu pourrais les blesser sans le vouloir.
À ce soir, maman.
Ne t'attarde pas après la classe. Ni dans le village, ni dans la forêt.
Pour aller, je marche droit devant et je regarde le soleil monter dans le ciel. Pour revenir, je marche encore droit devant, mais je regarde le soleil se coucher derrière la montagne.
Tu seras un bon élève, mon petit. Va vite maintenant, si tu ne veux pas être en retard le jour de la rentrée.
J'oubliais les fleurs pour la maîtresse.
Bonne journée, mon ogrelet.
Les anthropophages aiment bien les gens. Les gens bien préparés avec un petit accompagnement. Il faut pas que les gens aient peur, ils sont souvent nettement meilleurs avec du beurre. Les anthropophages aiment bien les accidents. Ça fait des petits menus à faire livrer par le SAMU. Quand on aime vraiment les gens, on les préfère évidemment bien saignants. Les anthropophages aiment bien la guerre. Ça fait de la chair à canon, ça permet de faire des provisions. Faut écouter son supérieur. Les soldats, c'est tellement meilleur. Cuit à cœur. Les anthropophages n'aiment pas les végétariens. C'est quoi ces salades? Les hommes sont des omnivores. Il faut pas que les gens oublient où tu manges, où t'es mangé. C'est la vie. Les anthropophages aiment leurs enfants, des enfants bien élevés et même un petit peu grassouillés. Pour les rendre intelligents, ils leur font ingurgiter d'autres gens.
Christophe Lapara, bonjour.
Bonjour.
Vous, c'est vous qui êtes le grelet. On va situer cette scène qu'on a entendue avant, avant l'extrait musical. Elle se trouve tout au début du spectacle.
Absolument, oui. C'est le début, c'est le démarrage de la pièce, oui.
Alors, le grelet, c'est quoi? Quelle est l'histoire?
C'est l'histoire d'un petit garçon de 6 ans qui vit donc avec sa mère, seul, au milieu de la forêt, qui va pour la première fois à l'école et qui ne connaît, qui ne sait pas qu'il a un père, rien, il connaît rien de sa propre histoire familiale. Et sa mère est très inquiète au moment où il doit aller pour la première fois de sa vie à l'école et donc partir de la maison. On apprend assez vite qu'elle a fait en sorte de le préserver de tout ce qui peut se rapporter à la couleur rouge. On apprendra après pourquoi. Et donc ce petit va aller à l'école et va commencer à découvrir que la couleur rouge, effectivement, le rend particulier, l'excite beaucoup, que ce soit la couleur de la robe rouge de la maîtresse, les volets de l'école, le vernis à ongles de la maîtresse, etc. Et jusqu'au sang qui un jour va couler de la main d'une petite qui s'est blessée et qui va lécher, etc. Et sa mère finira par lui révéler ses origines, à savoir qu'il est le fils d'un ogre.
Patricia Vernet, c'est vous la mère de l'ogrelet. Comme toutes les mères, vous êtes protectrice, mais peut-être un petit peu plus que ça. Vous craignez pour votre fils?
Tout à fait. Parce que elle l'a élevé, comme disait Christophe, toute seule, en pensant qu'elle arriverait à supprimer toutes ses envies. Enfin,
toutes ces pulsions.
Tout ça, oui, c'est ça, toutes ça, ses origines. Et en le nourrissant que de légumes, il n'a jamais vu de la viande, ni, comme disait Christophe, ni mangé des aliments rouges. Elle a enlevé tout même dans le jardin, elle fait pousser que des concombres, des trucs comme ça, et pas du tout, même pas des tomates.
Puis il n'a jamais vu personne d'autre que sa mère.
Il n'a jamais vu personne d'autre, il ne sort pas de cet endroit, de ce jardin, de cette cabane. De cette maison dans la forêt.
C'est pour ça qu'il était tellement enthousiasmé à l'idée de partir à l'école.
Oui, lui, alors après, elle pense qu'elle a peut-être bien tout préparé et que tout va bien se passer. Enfin, donc elle est un peu confiante, mais bon, quand même très inquiète à l'idée qu'il découvre d'autres personnes, comment ça va se passer. Donc après, Elle va écrire à la maîtresse pour un peu lui expliquer de la manière dont il faut s'occuper de ce petit ogre-lait, qu'elle a appelé l'ogre-lait quand même. Bon.
Oui, ça dit toutes ses origines. Hein. Et Christophe Lapara, vous êtes également le metteur en scène de cet ogre-lait. Pourquoi avoir choisi ce conte de la Canadienne Suzanne Lebeau? C'est un conte qui date de 2003.
Pour raconter un peu le parcours, en fait, avec Patricia, on travaille ensemble depuis de très nombreuses années maintenant, plus de 20 ans. Et il s'avère qu'il y a, en 2010, j'ai monté un autre texte qui s'appelle Le Petit Pousset.
Oui, vous avez un truc sur les ogres.
Hein. Voilà, de Caroline Baratou. Et Patricia jouait la mère et la femme de l'ogre dans ce texte. Et ce texte de Caroline Baratou sur le petit pousset était vraiment plus centré sur le rapport père-fils. Et puisque la mère était quasiment, pas muette, mais elle avait très très peu de texte, ce qui était moins le cas de la femme de l'ogre qui parlait davantage. Et quand j'ai découvert l'ogre-lait à cette époque-là, puisque du coup en travaillant sur la figure de l'ogre, on m'a parlé de cette pièce notamment, j'ai tout de suite aimé et l'écriture et le fait aussi que ce soit cette fois une pièce centrée davantage sur le rapport mère-fils. Et j'avais envie de continuer cette sorte de parcours autour des figures de l'ogre et des rapports familiaux en continuant le travail avec Patricia qui avait joué dans Le Petit Pousset et qui du coup prolongeait quelque chose dans cette écriture-là entre deux spectacles. Donc voilà le choix pourquoi j'ai monté ce texte.
Justement, en parlant de l'écriture, c'est une écriture joliment désuète dont toute modernité est absente. On mentionne juste une fois le fait qu'ils n'ont pas le téléphone. C'est tout.
Oui.
Il n'y a pas de repère concret sur une époque quelconque.
Non, et c'est ça que je trouve formidable, parce que ça reste totalement ouvert. On reste dans le domaine totalement du conte et de la poésie. Et ça permet d'inventer, de proposer tout un imaginaire libre et propre à chacun, en fait.
Patricia Vernet, comment est-ce qu'on arrive à ce que ça fonctionne, cette écriture désuète qui est totalement hors du temps? Comment est-ce qu'on arrive à s'approprier ces mots-là en tant que comédienne?
Oui, on a beaucoup, beaucoup travaillé sur le texte avant de répéter sur scène. Bon, moi j'aime beaucoup ce texte. C'est vrai qu'on essaie de bien le dire. Enfin, je veux dire, on n'élite pas beaucoup et tout ça. C'est presque comme de la poésie. En même temps, il y a beaucoup de choses concrètes.
On l'a entendu dans votre jeu. Oui. C'est très articulé. Oui. Chaque mot a une signification que vous mettez en valeur.
Oui. Oui, tout à fait. Et voilà, c'est la prose de Suzanne Lebeau qui est québécoise aussi. Il y a quelques formulations qui sont un petit peu aussi qui parlent un peu
des québéquismes.
Québécois, ouais, c'est ça.
Vous en avez, Christophe Lapara, il y a des québéquismes que vous avez retraduits en français de France ou aucun?
Non, on a absolument gardé l'intégralité du texte. Oui, oui, tout à fait.
Est-ce que vous avez eu un contact avec l'autrice? Venir vous voir sur 8 à 9 000 km, c'est peut-être pas le cas, mais peut-être a-t-elle eu vent de votre adaptation?
Alors non seulement elle a eu vent de la puisqu'on fait une, parce que comme c'est un petit truc technique, mais quand un auteur, ce qu'on appelle les auteurs vivants, auteurs contemporains, on a obligation de demander les droits d'auteur. Donc, de toute façon, elle est au courant à partir du moment où on joue sa pièce, puisqu'elle nous donne l'autorisation ou non. Et effectivement, elle a vu le spectacle, puisque le spectacle date d'il y a quelques petites années maintenant, puisqu'on l'a créé en 2017. Et elle est venue le voir à Avignon. Elle était à Avignon, donc elle est venue le voir quand on jouait à Avignon. Et on a échangé après. Et Patricia me corrigera, mais elle a aimé. Et elle a dit qu'elle se rendait compte à quel point elle avait écrit des choses vraiment sombres par rapport à l'enfance. Quoi.
Oui, voilà. on y reviendra tout à l'heure. Rappelons à nos auditeurs que le deuxième spectacle qu'on invite aujourd'hui dans Radio Scénique, c'est L'Ogre-lait. C'est Christophe Lapara et Patricia Vernet qui en sont les interprètes. On va avancer un tout petit peu dans le récit et dans l'action de ce conte, parce que vous avez eu la gentillesse de proposer d'interpréter des extraits en direct. L'ogre-lait est allé à l'école, tout s'est apparemment bien passé, enfin apparemment. On va retrouver l'ogre-lait et sa mère dans leur cabane transposée dans le studio d'Aligre FM.
Radio Scénique par Éric Dauterre. Le théâtre sur Aligre FM.
Toutes les pages de mon cahier ont des anges, maman, et la maîtresse dit que je suis un bon élève.
Je déteste les chasseurs qui ne respectent ni le jour ni la nuit.
Tu as mal dormi, maman ?
Et les coups de feu m'ont tenu éveillée. Dans le noir, les heures passent lentement et les ombres se transforment en cauchemars. Et cette odeur de sang, jusque dans la chambre, la fenêtre fermée, je pouvais sentir la blessure du loup qui dessine des chemins dans la forêt.
La maîtresse dit que les loups affamés empêchent les enfants de venir à l'école et que les chasseurs sont utiles.
Ici, les loups ont suffisamment à manger et les chasseurs chassent pour leur plaisir.
Hier, il manquait Georges et Joseph, et même Marie, qui habite de l'autre côté de la forêt. Pamela, elle, vient tous les jours, malgré le loup. Qu'est-ce qu'un loup, maman ?
Un carnivore, mon petit. Un mangeur de viande crue. Ses crocs ne laissent pas de quartier et ses yeux jaunes voient dans la nuit. Il court plus vite qu'un garçon de 6 ans, même grand comme toi. Ne te mets pas sur sa route.
Je n'ai pas peur des loups.
J'ai peur des chasseurs et des loups. Vivement l'hiver qui rendra à la forêt son silence et son odeur de feuilles mortes et d'arbres gelés.
J'aime l'odeur de l'automne et des chasseurs, maman. Et ne t'inquiète pas pour moi, je suis trop grand pour avoir peur. Regarde mes mains. Elles sont capables de tordre le cou d'un loup.
J'aimerais que tu restes à la maison aujourd'hui.
Ah non, maman, j'ai promis à Pamela de lui faire goûter une pomme verte. Elle dit que les pommes vertes donnent mal à l'estomac et qu'il faut attendre qu'elles soient rouges pour les manger. Ah, maman, une lettre de la maîtresse que j'avais oubliée dans mon sac.
Tu m'as caché une lettre de la maîtresse ?
Je l'ai oubliée, maman. À ce soir, je ne m'attarderai pas.
Simon, ne pars pas tout de suite.
Je vais être en retard.
Attends une minute, je dois lire cette lettre. Il y a peut-être une chose importante que je dois te donner pour la journée.
C'est une lettre de l'autre jour, peut-être de l'autre semaine, et la maîtresse n'en a pas reparlé. Je te promets de revenir tout de suite après l'école.
La forêt n'est pas sûre et j'aime mieux te garder avec moi.
À ce soir, maman.
J'aimerais mieux que tu restes avec moi.
Ne t'inquiète donc pas, maman.
Tu ne sors pas aujourd'hui, Simon.
Tu n'as pas le droit de m'empêcher d'aller à l'école. Même si tu voulais, tu ne le pourrais pas. Je suis trop fort maintenant. J'aime l'odeur de la forêt. Toute la nuit, elle m'a agacé jusque dans les plis de mon oreiller.
Simon, reviens. Simon, je ne veux pas que tu sortes. Ce n'est pas l'odeur de la forêt qui t'appelle. C'est l'odeur du loup blessé.
Christophe Lapara et Patricia Varnet, merci à vous. C'est pas évident d'interpréter une scène sortie du contexte. Vous êtes sortie de votre décor, sortie du contexte. Tiens, on va en parler du décor d'ailleurs, parce que c'est ce qui vous réunit avec une censure, ça a enchanté. C'est le soin apporté à la forme. Votre décor, c'est une cabane en bois.
Oui, alors c'était l'envie de travailler sur quelque chose qui effectivement part du bois. Moi je travaille souvent avec le bois, les caisses, les vieilles caisses, etc. Et notamment parce qu'on est dans une forêt, on est dans le domaine des contes, et parce qu'il y a tout est sur roulette, tout est mobile, que des éléments mobiles qui peuvent d'ailleurs s'emboîter les uns dans les autres, parce que Dans la pièce, vraiment, il y a cette notion de déménagement possible à tout moment de la part de la mère, qui dès qu'elle sent que le danger est trop important, que ce petit ayant découvert ses origines, tout à coup, soit bien, ou bien lui produise des monstruosités, ou alors soit justement à cause de ça pris en chasse, etc., peut à tout moment partir faire les bagages, etc. Et donc je voulais absolument qu'il y ait cette notion-là, de sortes de cabanes, de choses entre le provisoire et en même temps quelque chose de chaleureux, parce qu'il y a un vrai foyer maternel. Mais voilà, c'était donc cette envie-là de travailler sur cette notion-là.
Patricia Varnet, vous incarnez le dedans, hein, protecteur, mais il y a le dehors aussi qui est évoqué dans le spectacle. Est-ce qu'on révèle aux auditeurs comment c'est fait ? Alors, l'ogrelet sort de chez lui et on le voit cheminer vers l'école.
Oui, avec il y a un dessin animé en fait qui est au théâtre Essaillon, qui est projeté sur le mur.
Ce qui permet d'avoir une continuité d'action.
Voilà, quand on le voit, en fait, il sort par la salle et on peut le suivre sur le chemin de l'école. Et puis après, il y a d'autres moments aussi, bon, avec le père, avec la forêt, etc. Puis il y a le son, parce qu'il y a beaucoup de... sur le dessin animé, après, on voit la maîtresse qui dit le texte de la lettre qu'elle envoie à la mère. Voilà, donc c'est très joli.
Encore, c'est très joli, effectivement. Encore un point commun avec le spectacle qu'on évoquait tout à l'heure, c'est l'utilisation d'instruments acoustiques. Alors, ils ne sont pas en direct, hein, ce sont des enregistrements, on vient d'en entendre. Du violoncelle, uniquement du violoncelle ?
Non, il y a du violoncelle, du saxo, et si je me souviens bien, je ne sais plus, on avait engagé 3 instrumentistes avec la personne Jean-Christophe Camps, avec qui je travaille depuis longtemps, qui est un musicien électroacoustique. Et on avait pris, en plus de son travail sonore à lui, 3 instrumentistes. Parce que moi, je ne voulais pas du tout de son réaliste. Donc, par exemple, tous les sons des loups, ce ne sont que des sons produits à partir de violoncelles et pas du tout des sons de loups préenregistrés. Et il y a donc un grand travail sonore qui est à la fois, qui vient chercher une forme de réalisme et en même temps un réalisme poétique qui s'en décale, quoi, qui donne une sorte de distance et qui permet de s'éloigner d'un réalisme qui serait un peu trop premier. Et on s'amuse aussi pour le premier dessin animé avec la sortie de l'Ogrelet qui va à l'école. Là, à l'Essaillon, on n'a pas de micro parce que ce n'est pas nécessaire, mais quand on jouait dans d'autres salles, on avait un micro en avant-scène. Et on disait ce texte qu'on dit là depuis la salle, et non plus depuis le plateau, par les micros. On nous voyait aussi comme on nous voit là, mais on était sur des micros pour jouer sur la notion de doublage de voix off, quoi, comme on dit, d'un dessin animé.
En allant voir le Grelet, j'ai lu que le spectacle pouvait être vu par des enfants à partir de 8 ans. C'est pas trop jeune. Alors, on n'a pas évoqué la fameuse lettre que lit la mère de le Grelet, une lettre... forte en menace, enfin forte en danger à venir. Mais il y a deux, trois scènes, on parlait d'un loup, on ne va pas en dire plus, qui sont effrayantes. Les enfants, ils ne sont pas trop effrayés en sortant de là. J'ai l'impression que c'est plus les adultes que les enfants, finalement, Patricia Varney.
Oui, enfin bon, à partir de 8 ans, c'est bien que ce ne soient pas des enfants plus petits. Enfin, ça nous est arrivé qu'on en ait des plus petits et bon, ça s'est bien passé, mais c'est vrai qu'on dit que le spectacle à partir de 8-9 ans. Et souvent, c'est c'est-à-dire que c'est pas au même endroit que les parents et les enfants ont peur dans ce spectacle, quoi. Parce que bon, évidemment, ce que raconte la mère sur ce qui s'est passé quelques années en arrière, c'est terrible. Mais je pense que ça fait plus peur aux parents qu'aux enfants. Et après, après les enfants, ils ont aussi ils aiment bien avoir peur un peu. Une fois, on le voit justement, moi quand je les vois, j'en vois qui se collent contre leurs parents et tout ça, mais qui sont, au théâtre Essaillon notamment, ils sont très très attentifs. Même nous, on se dit, oh là là, mais ils réagissent pas. Ils
sont, il y avait un grand silence.
Ouais,
le jour où, l'après-midi où je suis venu, il y avait un grand silence et moi en fond de salle qui claquait des dents de peur.
on vous a entendu au plateau.
C'est ça qui faisait peur. En fait.
La vertu des contes, c'est souvent de porter un enseignement. C'est quoi celui de l'Ogrelet? Je vais vous demander votre avis à tous les deux, Christophe, là, par vous qui êtes le comédien l'Ogrelet. L'Ogrelet et le metteur en scène, vous, le message que vous aviez envie de faire passer, le message que vous avez tiré de ce conte?
À moi, c'est vraiment le fait de ne... C'est une amie qui m'avait dit une phrase comme ça au détour d'une conversation. Elle m'avait dit, dans l'héritage, on n'est pas obligé de tout prendre. Et j'aime beaucoup cette phrase et je la trouve propre à cet Ogrelet. Et effectivement, je crois que c'est très, 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 très important que chacun puisse entendre que, quelles que soient nos origines, nos familles, ce n'est pas forcément, ou en tout cas ce n'est qu'une partie de nous, et on peut intervenir, on peut avoir un pouvoir sur ça, et on n'est pas le fruit de nos parents, de nos grands-parents, etc. On a vraiment notre propre liberté.
Patricia Vernet, il faut être très, très prudent. Il n'y a pas de morale dans ce conte. Chacun tire la conclusion. Et vous en tirez quoi?
C'est-à-dire, par rapport à la mère qui le couve beaucoup,
très étouffante,
et qui est très étouffante et qui ne croit pas qu'il va réussir, etc. Donc, à la fin, elle est quand même... elle est transformée, quoi. C'est-à-dire que son cheminement à lui, tout ce qu'il a réalisé pendant les épreuves, etc., ça commence à faire changer la mer.
Alors, les épreuves, on ne va pas en dire plus, mais il doit passer un certain nombre d'épreuves pour s'affranchir, ou pas de ses antécédents de fils d'ogre.
Oui.
On n'en dit pas plus de ce joli spectacle qu'on a eu plaisir à inviter Christophe Lapart et Patricia Varnet. Merci à vous.
Merci. Merci.
Fin de ce numéro 29 de Radio Scénique, votre émission traitant des arts de la scène sur Aligre FM 93.1. Merci à nos invités. Raphaël Calandreau était avec nous, avec Julie Autissier. Ils forment le duo opposé, mais complice, du spectacle Une Censure Sachant Chanter. Ils réinterprètent tous deux avec talent et malice près de 40 de nos chansons ayant subi les foudres de la censure. C'est au Théâtre Essaillon et leur spectacle, eh ben, il fait un bien fou. Eux, ils sont deux aussi, et ils sont aussi sur la scène de l'Essaillon, une autre scène, l'autre salle de l'Essaillon, pour nous présenter L'Ogrelet, un conte qui apparemment fait plus peur aux adultes qu'aux enfants, enfin du moins pas aux mêmes endroits. C'est une histoire bien écrite et joliment interprétée dans laquelle ce n'est pas Lou qui a le rôle principal. Merci à Christophe Lapara, metteur en scène et comédien, et Patricia Varnet, comédienne, de leur présence à nos micros et de leur interprétation en direct de leurs extraits de leur Ogrelet. Merci à Pierre Demkoff qui m'a assisté à signer les illustrations musicales de cette émission, en dehors de celles signées de Raphaël Calandreau, et des pièces musicales pour violoncelle et saxophone qui ont illustré les extraits de L'Ogrelet et qui sont signées de Jean-Christophe Camps. Si vous souhaitez connaître la liste des morceaux programmés ou tout simplement réécouter notre émission de ce jour, c'est sur allegrefm.org, rubrique podcast, émission Radio Scénique. Un grand merci à notre technicien, le technicien qui a œuvré à nos côtés de l'autre côté de la vitre. Merci donc à Enrico Mastrogiovanni qui a assuré la réalisation technique aujourd'hui. On se retrouve dans 2 semaines. Rappelons que Radio Scénique est diffusée les 2e et 4e lundis du mois à 10h. En attendant de se retrouver, allez dans les salles, voir du théâtre, c'est là qu'est la vie.
Vous écoutez Aligre FM 93.1.